France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le choc, c'était hier. L'onde de choc, on va la sentir encore pour un moment. Le rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église est accablant. Rappelons quelques chiffres. 216 000 victimes agressées par des membres du clergé. On monte à 320 000 en ajoutant les laïcs. Et tout cela depuis 1950. La commission qui a travaillé pendant 2 ans et demi parle d'un phénomène systémique, d'une institution qui n'a su ni prévenir, ni voir, ni traiter les violences. Elle interroge donc sur le droit canon largement inadapté. Elle relève l'excessive sacralisation de la personne du prêtre, la vision excessivement taboue de la sexualité, la survalorisation du célibat, le dévoiement de l'obéissance. Bref, elle touche à l'institution, à son fonctionnement et elle touche même à la doctrine. Alors est-ce qu'on ira jusque-là? Quelle sorte d'après y aura-t-il? Car il y aura forcément un après. À quoi doit-il ressembler? Est-ce que l'Église peut se réformer elle-même? Est-ce qu'elle joue sa peau? Est-ce qu'elle joue son renouveau? On en discute ensemble ce soir. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, pour démarrer, c'est vous la première Anne. Vous êtes à Toulouse et bonsoir, bienvenue.
Bonsoir France Inter et bonsoir à tous. Et merci. Voilà, ma question c'est, y a-t-il des commissions d'enquête organisées dans d'autres pays, en Europe et dans le monde? Et le Vatican pousse-t-il à organiser ces commissions d'enquête?
Allez, pour répondre à votre question, Anne, et discuter ensemble jusqu'à 20h, Christine Pedotti est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la revue Témoignages Chrétiens, vous avez écrit notamment « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» C'était chez Albin Michel en 2019. Ouais. Bonsoir Monseigneur Dominique Lebrun.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes archevêque de Rouen. Et Rémi Brancato est là aussi, bonjour Rémi.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est vrai, du service reportage de France Inter, c'est vous qui avez travaillé autour de tous ces sujets, autour de la commission Sauvé, qui avait rencontré aussi beaucoup de victimes. Ces derniers jours, c'est plutôt vers vous, Christine Pedotti, que j'ai envie de me tourner. Il y en a eu d'autres, des commissions de ce genre.
Oui.
Pas partout, mais dans certains endroits, ça a fait beaucoup de bruit aussi.
Oui, tout à fait. Les premiers éléments, on les a aux États-Unis, 2004. C'est l'enquête John Jay, qui donne des taux de prévalence de 4 et quelques pourcents de prédateurs, qui identifient le problème. Il y a une autre très grande enquête avec des moyens. Donc la commission John Jay, elle n'a rien à voir ni avec l'Église ni avec l'État. Mm-hmm. Ensuite, une très grande enquête en Australie, c'est une commission royale qui travaille pendant beaucoup d'années, qui cherche dans tous les milieux et qui va trouver aussi, comme la commission Sauvé, une prévalence très importante du côté du catholicisme, en dehors de la famille. Donc elle s'intéresse à toutes les formes d'abus. On a en Allemagne une grande commission qui, elle, est commanditée par l'Église. Voilà. Et donc finalement, la France... Alors il y a aussi une commission belge, qui est une commission d'enquête parlementaire. Voilà, il y en a une en Pays-Bas aussi, il y en a une en Irlande. Donc finalement, la France était presque en retard, si j'ose dire, n'avait pas fait ce travail. Et c'est il y a 3 ans qu'on a
commencé à travailler. Et la question corollaire, Monseigneur Lebrun, c'est de se dire, alors vous les avez vus, les autres, qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Et en retard pour en retard, et au fond j'ai envie de dire, peu importe maintenant que ce rapport est là, qu'est-ce qu'ils ont fait eux dont vous vous dites, oui, on va faire ça nous aussi? Qu'est-ce qu'il y a des changements qui vous ont paru intéressants dans les expériences précédentes?
J'ai pas constaté de changement, si ce n'est des décisions qui ont été prises, mais pas de changement fondamental.
Ah. Hein,
j'ai constaté qu'il y a des décisions prises, en particulier en Allemagne, avec le synode de l'Église d'Allemagne qui est en route. Bien sûr, la formation, bien sûr, la prévention, bien sûr, mais je crois qu'on est tous un peu sur le même sillon. Hein, c'est-à-dire que un sillon que nous avons commencé aussi, comme nous avons pu, depuis surtout les années 2000, à la fois pour essayer d'accueillir la vérité, d'accueillir les victimes. Et c'est ça que le rapport Sauvé nous apprend et nous montre et nous met devant nous et devant notre honte. C'est que il fallait basculer du côté des auteurs de l'Église aux victimes. Mm-hmm. Et que les victimes sont au centre de nos préoccupations.
Et est-ce qu'on se dit, Monseigneur Lebrun, dans ces moments-là, est-ce qu'on se dit, ok, donc oui, on va renverser la table, en fait. On va la renverser, la table. On va regarder, vous avez vu qu'il y avait des liens à la doctrine, dans le rapport Sauvé, des liens aussi à l'institution. Est-ce qu'on se dit, Ok, on va regarder tout ça, on va regarder notre fonctionnement du démarrage, ou pas.
Plus profond, c'est plus profond que ça encore le changement. Hein. C'est qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? À quoi elle sert ma vie ? Je crois qu'il y a des interrogations plus profondes. J'ai eu un dialogue hier avec un prêtre qui était de cet ordre-là. Une interrogation, pas d'abord sur les fonctionnements, comme si on voulait réussir. Mais une interrogation profonde, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans notre cœur ? Et c'est ça, je crois, que le point sur lequel moi je suis pour l'instant sous le choc, interpellé, c'est d'abord, est-ce que je vais me convertir ? Est-ce que je vais changer ? Est-ce que quand je dis, par exemple, et j'en témoigne, que je me confesse tous les mois, moi, c'est je suis un pécheur. Est-ce que je le dis avec suffisamment de sincérité ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les fidèles qui m'entendent vont le penser aussi ?
Et est-ce que vous vous dites, j'en ai croisé des comme ça ? J'ai croisé, je les ai pas vus. J'ai pas vu les prêtres et j'ai pas vu les victimes non plus. Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous avez revu aussi votre carrière, je sais pas si on dit ça, dans l'église, en vous disant si ça se trouve, je les ai croisés et je n'ai rien vu.
Je m'interroge, c'est que je les croise aujourd'hui. C'est-à-dire, je croise aujourd'hui, j'ai dans ma tête fait un petit calcul rapide, il y a 3000 personnes dans mon diocèse, 3000 habitants qui sont touchés, blessés très fortement. Eh bien, est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de cela? Ça, c'est très clair que c'est pour moi une question majeure, hein, et la question que, alors que je porte déjà depuis un certain temps, depuis que je les ai rencontrés, parce que je suis évêque depuis 2006, jusqu'en 2006, je n'imaginais pas cette pourriture. Je n'imaginais pas que ça existait. Et quand en 2006, je deviens évêque de Saint-Étienne et que je rencontre les premières victimes, alors ça me bouleverse. Alors ça change tout. Et je rencontre aussi des auteurs. Et là, c'est pour moi une situation très très compliquée.
Christine Bettotti, quand on dit qu'il faut, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait renverser la table, dans tous les exemples que vous m'avez cités tout à l'heure des pays, qu'ils soient voisins ou qu'ils soient lointains, personne n'a renversé sa table.
Non, personne n'a renversé la table. Alors, ce qui a déclenché les choses en France, c'est une lettre du pape François, qui s'appelle une lettre au peuple de Dieu. Et on voit bien que si le pape François écrit cette lettre en août 2018, c'est parce qu'il est désemparé et qu'il ne sait pas quoi faire. Alors, il pointe une chose, c'est ce qu'il appelle le cléricalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le cléricalisme ? Évidemment, tout le monde peut dire, soit c'est l'excès de place des prêtres, soit c'est la place structurelle des prêtres. Le rapport Sauvé dit quelque chose sur le prêtre comme figure sacrée. Et quand on écoute les victimes, elles disent...
L'excessive sacralisation de la personne du prêtre,
le prêtre,
dans les mots de Sauvé.
Pour moi, c'était comme Dieu lui-même. Alors, je veux dire, au fond, tous les gens comme moi qui connaissent bien l'Église catholique, qui y habitent, hein, c'est ma maison, savent bien qu'il y a ça, il y a cette structure... Le pape Jean-Paul II, en particulier, a énoncé quelque chose qui s'appelle une structure sociale de péché.
Mais pardon, ça se casse, Pardon, excusez-moi, juste une seconde, Rémi. Est-ce que ça se casse, ça, ou pas ? Enfin, je veux dire, c'est bien joli de dire qu'il faut casser l'excessive sacralisation de la personne du prêtre, mais comment ça se casse ?
C'est un gros boulot, parce que, évidemment, les prêtres et les évêques, ils sont structurés dans cette forme. Ils ont choisi une vie avec aussi un passé, des images de prêtres qui datent du temps passé. Ils ont sans doute admiré des prêtres qui étaient des personnages sacrales, enfin, qu'ils ont porté comme étant une sorte de héros sacré. Et ils ont envie de leur ressembler, et ça c'est plutôt légitime, sauf quand ça produit des effets pervers.
Il y a des préconisations qui sont formulées dans le rapport de la SIAZ, notamment dans le fonctionnement même de l'Église catholique, c'est de faire intervenir davantage de laïcs dans les instances de décision, et le rapport insiste sur la place...
Dont certains laïcs sont aussi, par ailleurs, parmi les prédateurs, disons-le.
Effectivement, hein, mais dans ce cadre-là, le rapport de la SIAZ le conçoit davantage comme autorité de contrôle, comme une autre vision dans le cadre des structures de l'Église, et le rapport insiste sur la place des femmes parmi ces laïcs. Il faut voir aussi, et c'est notamment Nathalie Bajos de l'INSERM qui a mené cette grande étude en population générale, qui insiste sur la dimension patriarcale des violences sexuelles dans l'Église, et c'est important, c'est des mots qu'a repris Jean-Marc Sauvé dans sa présentation hier, en insistant justement sur cette figure du prêtre qui est l'émanation d'une figure patriarcale qui favorise, dit-elle, l'émanation, l'arrivée arrivée de violences sexuelles, un contexte favorable à l'arrivée de ces violences.
Avant qu'on retourne au standard, j'aimerais bien votre avis là-dessus, Monseigneur Lebrun. Comment on désacralise le prêtre, en fait?
Je crois que cette piste est tout à fait juste, hein, c'est-à-dire que Monsieur Sauvé d'ailleurs a distingué entre ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre, on va dire sacramentel pour faire vite, et puis la gouvernance. Hein. Et je crois qu'effectivement, là nous avons un certain nombre de progrès à faire, très fortement. Bon, dans mon propre diocèse, j'ai un quart des paroisses qui sont dirigées par des laïcs, dont 19 femmes sur 24 personnes. Donc voilà, des paroisses, hein, c'est pas des paroisses qui sont confiées à des laïcs.
Et est-ce qu'on se parle mieux dans ces paroisses-là? Est-ce que vous avez l'impression que la parole circule mieux, qu'il se passe des choses qui sont différentes?
C'est un grand apprentissage, parce que le risque, c'est aussi une cléricalisation des laïcs. Et si, comme disait très justement Christine Pedotti, il s'agit pas de reproduire un modèle. Et c'est ça qui est très difficile. C'est qu'on a justement un entraînement. Moi, dans mon conseil, j'ai effectivement deux femmes toutes les semaines. Mais évidemment, il y a quelques années, quand j'ai introduit des laïcs dans mon conseil, des prêtres ont dit « Est-ce qu'elles vont participer aux nominations ?» Parce que c'était pour eux une question. Ouais. Bon, mais aujourd'hui, plus personne ne pose la question, c'est évident.
Ouais. Quand on dit casser l'institution, c'est ça que ça veut dire, en fait. C'est tordre le cou, parfois, à certaines idées reçues de l'institution. Philippe est dans les Yvelines, je voudrais qu'on l'écoute. Bonsoir Philippe. Vous avez la question classique, Philippe, que tout le monde pose, il y en a beaucoup au standard. Elle est pour vous, allez-y.
Bonsoir, écoutez, merci. Je précise d'emblée que je ne suis pas catholique. Je suis membre d'une autre religion.
Vous pouvez rester.
Voilà, une autre religion qui a été persécutée pendant la Deuxième Guerre mondiale.
D'accord,
voilà,
on a compris.
Pas un dessin. Et précisément, ma religion, ainsi que les protestants, montrent que les ministres du culte peuvent être mariés s'ils le souhaitent, ou les ministres du culte des deux religions que je viens de citer ne sont pas mariés, bien sûr. Mais il y a en particulier, dans la branche la plus moderne du judaïsme, des femmes rabbins, il y en a très peu, et il y a dans le protestantisme des femmes pasteurs. Et il y a des ministres masculins du culte, des pasteurs, des
rabbins, pasteurs sont mariés,
qui sont mariés, voilà, qui sont mariés s'ils le souhaitent, ils ne sont pas tous mariés. Et donc, ma question, elle est très simple. N'est-il pas temps que l'Église catholique, je m'avais peut-être de ce qui me regarde...
On l'a vu venir, votre question, Philippe.
Voilà, et ben vous l'avez, la question.
Merci,
voilà,
on l'a compris. Donc, faut-il mettre fin au célibat des prêtres? Elle vient une bonne dizaine de fois au standard. Je vais commencer par vous, Christine Pedotti, non pas pour que vous répondiez à la place de Monseigneur Lebrun, mais là aussi, je repense à tout ce qui s'est passé dans les autres pays qui ont eu le même genre de commission. Est-ce que là aussi, c'est la question à 1000 euros qui revient tout le temps?
C'est vraiment la question. Et d'ailleurs, nos frères et sœurs catholiques allemands, non seulement ils prennent la question à bras-le-corps, mais ils sont en train d'essayer de retourner la table. Alors, ils ont des moyens, parce que l'Église allemande, elle est très riche, et donc elle pèse dans l'histoire de mondiale, dans le poids du catholicisme mondial, elle pèse. Donc, on nourrit de grands espoirs de ce côté-là. Alors, je vais dire une chose, c'est que, je veux dire, la pédocriminalité... elle n'a pas lieu parce que on est refoulé sexuellement. Enfin, c'est pas aussi simple
c'est
que ça.
C'est important de dire ça aussi.
Évidemment, ça n'est pas aussi simple que ça. Mais il reste que une forme de la sacralité du prêtre tient à son statut de mis à part. Et aussi, singulièrement, d'homme sans sexe, puisqu'il est réputé s'abstenir. Donc, du coup, d'ailleurs, ça laisse un espace symbolique très étrange, le fait qu'il ne soit pas marié. C'est par exemple pour ça que tant de victimes, vous savez, le rapport Sauvé dit une chose terrible, 40% des victimes ont parlé, et elles n'ont pas été entendues. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été entendues? Moi, j'ai entendu les témoignages des victimes. Quand on dit, le père machin m'a pris sur les genoux, il m'a caressé et embrassé, les parents, ils donnent une claque à l'enfant en disant, arrête de raconter des horreurs. Parce que ils ont le sentiment que le prêtre, il est tellement sacré, il est tellement hors du champ sexuel qu'il ne peut pas faire ce genre de choses. Donc il y a là un univers symbolique très complexe.
Pour aller dans la même direction, Monseigneur Lebrun, j'imagine que vous n'allez pas trancher en disant, bah oui, évidemment, bon sang, mais c'est bien sûr, la solution se trouve ici. En revanche, ce qui est quand même intéressant, c'est l'éducation à la sexualité, le rapport à la sexualité, c'est la gestion aussi des grandes solitudes, parce que ça doit pas être rigolo tous les jours d'être un prêtre, un évêque et d'être tout seul. Donc tout ça, en fait, toute cette espèce de cocotte minute qui peut exploser dans des proportions décrites de manière terrifiante dans ce rapport, est-ce que tout ça, on en parle ? Est-ce que la sexualité, parce que pas de sexualité, c'est aussi une sexualité au fond, donc est-ce qu'on parle de ça ?
Bien sûr. On agite beaucoup de choses. Si on peut parler du célibat, puisque c'était la question. Mmh. Bon, évidemment, la réponse qui serait un peu rapide, hein, c'est de dire, regardez ce qui se passe dans les familles, quoi. Hein. Mmh. Bon, et c'est des proportions 10 fois plus importantes que dans l'Église.
C'est pour ça que je parlais de.
Et donc,
de,
voilà. La question n'est pas fondamentalement le célibat.
C'est ça. C'est pour ça que je parlais de
voilà,
je suis
d'accord avec Christine Devoti. Ça participe de l'aspect sacral du mis à part. Ça, c'est vrai. Mais j'espère que vous ne pensez pas que la table va être renversée grâce à une église et grâce à son argent, parce que c'est pas forcément quand il y a de l'argent que les idées sont les meilleures, hein. Mais en tous les cas, c'est le point de vue de l'église. Mais ça mis à part, effectivement qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans comment nous vivons le célibat, c'est ça la question.
Non,
c'est
comment nous vivons le célibat et la sexualité
et la sexualité,
en fait,
et comment nous vivons la sexualité. Voilà. Et ça c'est très clair, mais on est aujourd'hui dans une société où il n'y a jamais eu autant de personnes qui vivent seules. Hein. Mmh. Contrairement à ce que vous pouvez penser, moi je ne suis pas seul. Hein. D'abord je vis, nous sommes 4 personnes, et puis on a une vie de sociabilisation extrême. Mmh. C'est plutôt d'apprendre à vivre un peu la solitude, et il peut y avoir un peu d'immaturité qui se construit dans une vie dans une vie qui est super sociabilisée. Parce que de fait, on a des relations, en veux-tu, en voilà. Hein. Et ça, c'est plutôt, mais il y a effectivement une piste à creuser.
Il peut y avoir une grande solitude dans une foule immense, en fait, quand il s'agit de ce genre de solitude-là.
Oui,
toute cette dimension.
C'est beaucoup de relations personnelles, c'est beaucoup de relations. Je crois qu'on n'est pas suffisamment seul. Moi, c'est mon hypothèse. Mmh. Hein. Mon hypothèse, c'est que nous ne vivons pas suffisamment seuls. Hein. Et ça, c'est. Ça,
mais
c'est,
bref,
ça,
le début de la question, c'était est-ce qu'on parle de sexe ? Est-ce qu'il ne faut pas
oui,
parler
bien
plus
sûr.
De sexe ?
Mais ça, on en parle. Je veux dire. Peut-être pas suffisamment, peut-être qu'il faut encore entendre, et c'est vrai, ce que nous disent les sciences humaines, ce que nous disent la psychologie, mais là-dessus, je peux dire que les choses sont aujourd'hui très...
Je soulignerais tout de même que le rapport Sauvé, qui a tout de même la commission Sauvé, qui a tout de même travaillé pendant 2 ans et demi avec effectivement des éminents spécialistes, chacun dans leur discipline, théologiens, sociologues, démographes, j'en passe, souligne que la sexualité reste un tabou dans l'Église. Et c'est un mot qui a été employé par Jean-Marc Sauvé hier au moment de la présentation, et que c'est un tabou qui peut conduire à des dérives dans la mesure où le sujet n'est pas abordé, ne peut pas être abordé, y compris quand il y a des viances, y compris quand il y a des abus qui sont commis. Il n'y a pas de ressources pour les prêtres. En somme, il n'y aurait pas de ressources pour les religieux abuseurs. Ils n'auraient pas de ressources pour se tourner vers leur hiérarchie pour exprimer ces déviances.
Un des problèmes, qui me semble-t-il, c'est que la sexualité dans le catholicisme, c'est le rapport d'un homme et d'une femme mariés une unique fois et ouverts à la possibilité d'avoir des enfants. Ça fait pas grand-chose pour faire de la sexualité hors du péché, hein, légitime. Mmh. On dit voilà. Alors. En dehors de ça, ça a été d'ailleurs un des grands problèmes, c'est que tout ce que vous faites en dehors de ça, c'est du péché. Bon, je veux dire, c'est le choix de l'Église catholique, on peut en discuter, je dirais qu'on va en discuter entre nous, moi qui suis catholique et Dominique Lebrun qui l'est aussi, c'est nos affaires. Mmh. Mais ça pose un problème quand en fait ça ne permet pas de voir le moment où le péché se transforme en crime. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est que les péchés se sont transformés en crime. Parce que face à quoi on est, l'horreur de la commission Sauvé, qui est la seule qui fait cette grande enquête par rapport à tout ce que j'ai dit sur les autres enquêtes de masse, c'est qu'en fait, c'est un crime de masse.
Et là, vous avez raison. C'est-à-dire, il faudrait pas que vous nous renvoyiez la question de la sexualité pour nous recentrer sur nous-mêmes. La question, et de fait, ce que change le code de droit canonique, c'est que ce n'est plus une atteinte à la chasteté. C'est une atteinte à la vie.
Là, c'est un grand changement.
Et oui.
Et ça, c'est une révolution.
Et alors, la révolution au-dessus, est-ce que c'est pas, pardon, mais de renoncer à ce droit canonique et se dire que là aussi, on est dans quelque chose de, pardon de le dire comme ça, c'est.
S'il n'y avait pas de droit canonique, j'ai un prêtre actuellement qui a bénéficié d'un non-lieu et il ne serait pas suspendu. Parce qu'il a effectivement abusé. La justice française a pris un non-lieu à cause de la prescription, et moi je l'ai suspendu.
On a besoin du droit canonique pour ça.
Eh ben oui, parce qu'on peut pas avoir des décisions arbitraires. On peut pas prendre des décisions de justice de manière arbitraire. Il faut le faire selon un droit.
Enfin, ça me semble pas très arbitraire d'enlever de la présence d'enfants quelqu'un qui...
Pas seulement la présence d'enfants ensemble, mais l'interdire, tout ministère public.
Oui, n'a pas été déclaré innocent, il y a juste eu prescription, donc on connaît l'état de la culpabilité du bonheur.
Mais l'État français, lui, n'a pas pris de précaution. L'Église l'a fait.
Ah ouais. Voilà. Mais encore une fois,
un droit.
C'est ça.
Moi, je trouve assez naturel qu'un employeur.
Mais c'est ça, moi aussi. C'est exactement le sens de ma question.
Un employé aussi fautif.
Sauf que je suis pas un employeur.
Ben oui, mais c'était peut-être ça aussi le problème. C'est que le lien de subordination qui est réel, hein, on le sait, entre le prêtre et l'évêque, il n'est pas. Identifié dans le droit public, dans le droit général. Hein, vous ne le payez pas, rassurez-moi, le prêtre, en fait. Il n'est pas salarié chez vous.
Non.
Mais oui, non, mais c'est là où il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui font qu'en fait, on est obligé d'avoir un droit spécifique. Parce qu'on ne rentre pas dans le droit français ordinaire.
Je voudrais qu'on retourne au standard, qu'on n'oublie pas qu'on est au téléphone sonne. Bonsoir, Gérard, pardon. Gérard,
oui, bonsoir,
on vous écoute. Allez-y, Gérard.
J'étais un peu dans l'église il y a pas mal d'années quand j'étais jeune. Je suis absolument sidéré. Je suis un peu les résultats de la commission Sauvé, que je trouve absolument très intéressante. J'ai écouté le même monsieur Sauvé lui-même quand il témoigne. Il est incroyablement touché et efficace dans ce qu'il fait. Je suis absolument sidéré d'entendre l'évêque dans votre émission. Qui nous parle de marge de progression. Alors, la réalité, c'est que on est face, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à des tabous énormes et à des crimes, et que à partir de ça, il faut en prendre la mesure. La première des choses à faire quand il y a un problème de cet ordre-là, c'est de se mettre d'accord, c'est de faire un constat partagé, et ensuite, il faut faire une véritable révolution. Il faut que l'Église ouvre les portes sur le monde, qu'elle comprenne ce qui se passe. Il faut tout revoir. Alors en plus, là, je viens d'entendre dire que l'État français n'a rien fait. Enfin, je veux dire, l'État français, il n'a rien fait dans l'Église spécialement. Mais l'État français, il a des lois qui s'appliquent à tout le monde. Et l'Église, comme moi, comme vous, comme n'importe qui, est censée respecter la loi. Donc je veux dire, j'ai l'impression que les personnes qui sont sur votre plateau ne prennent absolument pas la mesure de ce qu'il faut faire. Il y a des organismes, il y a des gens qui font des formations. Moi, j'étais référent harcèlement sexuel dans une grosse boîte de 4000 personnes. Il y a des gens formidables qui font des choses. Il faut absolument que l'Église s'adresse à ces gens-là. Des gens qui sont absolument compétents et qui sont pas du tout de parti pris. Voilà.
Merci beaucoup, Gérard.
Je signale, moi, que j'avais un prêtre quand j'étais jeune en 1965. Dans une ville de banlieue de la parisienne, qui vivait avec un copain, il était homosexuel et ça posait déjà aucun problème. Donc je veux dire, entendre ce que j'entends aujourd'hui, je suis sur le cul. Pour vous dire.
Merci beaucoup, Gérard.
Je peux faire une petite rectification.
Allez-y.
Sur ce que moi j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des exceptions à la loi républicaine qui font que l'Église est exemptée d'un certain nombre de règles républicaines. C'est ça l'état de la laïcité en France aujourd'hui. C'est pas un souhait, c'est une observation.
Je ne crois pas que nous soyons au-dessus de la loi de la République. Nous essayons de les respecter.
Bah, vous avez un responsable des évêques de France ce matin sur France Info qui dit la confession, par exemple, échappe aux lois de la République. Il y a beaucoup de mails dans ce sens-là parce que ça a beaucoup choqué, en fait.
Oui, mais je ne crois pas que ça soit juste. J'ai beaucoup de respect pour ce confrère, sans doute. Hein.
Ah.
Mais ça n'échappe pas. Ça fait partie des secrets professionnels reconnus par la jurisprudence.
Mais est-ce que ça veut dire que si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, alors dans les deux sens, par exemple, un de vos confrères prêtres qui vous dit j'ai fait des attouchements sur un petit garçon, etc., ou une petite fille, est-ce que ça veut dire que dans la foulée, vous allez porter plainte ? Inversement, si vous avez un petit garçon qui vient au confessionnal et qui vous dit voici l'attitude de tel prêtre, est-ce que vous allez le chercher, ce prêtre-là? Est-ce que vous portez plainte? Est-ce que vous incitez le gamin à porter plainte?
Aujourd'hui, c'est un secret professionnel reconnu par la République. Hein, la question était celle-ci. Je peux, mais je ne suis pas obligé. Voilà, c'est cela l'état actuellement du droit. C'est une question aujourd'hui qui nous est posée. Actuellement, je ne le ferai pas, hein, mais c'est une question que j'accepte, que j'entends, et auquel j'ai pas la réponse aujourd'hui.
Rémi, je préciserai que la commission Sauvé, qui a longuement débattu de cette question spécifique du secret de la confession, a estimé qu'au regard de l'article 434.3 du Code pénal, qui qualifie justement ce délit de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur, concernant justement les agressions sexuelles sur mineurs, la commission Sauvé a longuement débattu et estime qu'il ne s'agit pas d'un secret professionnel et qu'il s'agit là de considérer que la confession, que l'Église devrait tout simplement se conformer au droit et qu'il s'agit là d'une anomalie en quelque sorte.
Non, elle dit que c'est un secret professionnel, mais qu'il y a un autre article qu'il faut faire entrer en ligne de compte, et c'est là le point difficile. Mais elle dit que c'est un secret professionnel.
Mais que, oui, absolument.
Et elle dit, il y a une attente du droit, comme ça arrive de temps en temps, est-ce que il n'y a pas un vide juridique, ou un vide jurisprudentiel? Mais pour l'instant, la jurisprudence actuellement a reconnu le caractère.
Mais elle dit précisément que sur ce délit de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur, il ne peut pas être exempté en raison du secret professionnel.
Mais elle dit que c'est son orientation.
Absolument.
Elle,
qui a fait consensus auprès de ses 22 membres.
Voilà, elle dit que c'est orientation, c'est la question qu'elle nous pose, ça c'est très clair, mais elle ne dit pas que le droit positif le dit. Elle dit, c'est ça qu'il faudrait comprendre.
Je me demande en vous écoutant, en fait, pardon de l'expression, si effectivement on n'est pas là dans le point névralgique, et sinon c'est vraiment le diable qui se mord la queue, parce que si vous entendez ça en confession, par exemple, je ne peux pas imaginer que vous ne ferez rien. Vous ferez forcément quelque chose. Donc ce que vous ferez, c'est que cette personne sera éloignée ou quelque chose dans ce goût-là. Donc on retombe dans les petits arrangements entre amis qui sont précisément ce à quoi vous avez échappé aujourd'hui.
Je vais pas faire ça. Je vais accompagner la personne qui vient pour qu'elle le dise à d'autres. C'est-à-dire, moi, j'ai le témoignage de personnes qui, parce que c'est très difficile de parler.
Bien sûr.
C'est ça, c'est très très difficile. Le fait de dire, je vais pouvoir le dire à quelqu'un qui ne va pas le répéter, c'est un premier pas pour l'exprimer. Et c'est aussi une garantie de liberté. C'est l'autre argument, hein, qui peut-être il faut peser, hein, qui permet à quelqu'un de se libérer et qui ensuite, à partir de là, sur les conseils du prêtre, a pu dénoncer et a pu parler. S'il n'y avait pas eu cette confiance absolue que ça ne serait pas répété, peut-être ne l'aurait-elle jamais dit.
Faut quand même vous mettre en conformité avec Monseigneur Moulin de Beaufort, la conférence des évêques, parce que ce matin, sur la confession, on ne répond pas aux lois de la République, c'était extrêmement clair, en tout cas c'était la manière dont il le disait. Karine est avec nous, pardonnez-moi, excusez-moi, vous vouliez ajouter quelque chose,
oui,
je vous en prie, Monseigneur Lebrun.
C'est que la question se pose, de notre point de vue, c'est difficile effectivement à entendre, c'est que, est-ce que cette règle-là doit être une règle qui, pour nous, est une règle qui va finalement rentrer dans l'objection de conscience ou pas, hein. Ça peut, parce que l'objection de conscience fait partie aussi de la dignité humaine.
Karine, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais commencer, et ça va, enfin, j'y avais pensé avant ce qui vient d'être dit, mais je voulais vraiment avoir une pensée ce soir pour toutes les personnes qui ont osé parler. Celles qui ont porté plainte, les lanceurs d'alerte, etc. Vraiment, ils ont toute ma reconnaissance et vraiment toute ma gratitude. Et sinon, ce que je voulais dire principalement, c'est que dans le rapport, ce que j'ai entendu hier, il y a une grande catégorie d'oubliés. Alors, on a parlé de 320 000 victimes, mais bien sûr, il y a tous ceux qui n'ont pas encore osé parler, tous ceux qui sont décédés sans parler. Et puis, il y a ceux qui sont victimes dans la suite, et c'est mon cas en fait, c'est-à-dire que moi, mon papa a été victime, et je pense que ça a très fort marqué notre éducation, notre vie quotidienne, et j'en ai pas entendu parler depuis hier. Mmh. Donc c'est ça que je voulais vous faire remarquer. Voilà, merci.
Merci Karine pour votre remarque. Christine Pedotti.
Oui, je veux dire, l'ampleur de ce qui est mis en évidence là, nous éclaire aussi sur un certain nombre de déflagrations secondaires qu'il y a eu dans les familles. Parfois, entre guillemets, les bouffeurs de curé, vous savez, ces gens qui sont irrités, agressés, etc. Une personne agressée, une personne brisée, et on voit enfin les paroles terribles de François Deveau hier, victime, ayant cette parole qui nous met dans le malaise, elle exprime justement la douleur, l'infinie douleur des victimes, le fait qu'il y a quelque chose de brisé à l'intérieur qui fait que, en effet, d'une certaine façon, leur parole est criarde. Hein, c'est, je le dis, et j'espère que François me comprendra s'il m'écoute. Je veux dire, il y a ça, et cette difficulté, ça a retenti sur les familles, même parfois comme des secrets terribles. C'est du poison qui coule dans nos veines, qui coule dans les veines de l'Église. C'est du poison qui coule depuis des années. C'est ça qui est grave.
Le président de la République, Mgr Dominique Lebrun, a parlé tout à l'heure, ce matin, de vérité et réparation. Vérité, ça prend du temps, mais il commence à y avoir effectivement une vérité. C'est ce qu'on entend dans ce rapport et ce qu'on va continuer probablement à entendre. Réparation, ça veut dire quoi ?
Je me permets quand même de revenir juste sur notre auditrice, hein, qui, je crois qu'effectivement, c'est terrible. Mmh. Parce que hier, on en a peu parlé, pour pas dire pas parlé, il y a eu une évocation des familles, des enfants, voilà, j'étais très touché, moi, par l'enfant qui voulait absolument que son père parle avant sa mort. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment, il y a des situations d'angoisse, des situations terribles. Et ça, je crois que c'est vraiment, vous avez eu raison vraiment de le souligner. Et pour que nous le prenions en compte, c'est-à-dire c'est pas 3000 dans mon diocèse, mais c'est 3000 plus. Ça c'est sûr.
Plus toutes les déflagrations effectivement autour. On disait réparation, ça veut dire quoi réparation? Comment ça s'imagine réparation?
Moi j'aime bien ce que dit Sœur Véronique Magron, c'est-à-dire que à la fois c'est irréparable et en même temps faut tout faire pour que on puisse réparer. Mmh. Est-ce que nous pouvons, on voit bien que le rapport se termine aussi sur un appel à la société, un appel aux autres institutions. Moi, je ne sais pas ce que je peux
faire.
Mais
pas aux fidèles.
Alors, de fait, là, c'est plus profond que ça. Il y a la reconnaissance, ce que l'institution, ce que moi-même fait, parce que je vois bien qu'il y a des personnes, des victimes qui ne viendront jamais, qui sont parties, qui ont claqué la porte, et je le comprends absolument. Hein. Donc que pouvons-nous faire ? Voilà, que pouvons-nous faire ? Et ce que nous pourrons faire, nous le ferons. Moi, j'ai pas lu tout le rapport, et je pense que sur cette partie-là, on a certainement à progresser, plus qu'à progresser, puisque j'étais interpellé sur cette expression. Il y a des choses très nouvelles à engager.
Il y a des choses sur la réparation.
Sur la réparation, il y a des choses sur la question de l'indemnisation, même s'il s'agit de quelque chose de très concret, sans doute au regard des souffrances qui se sont exprimées. Sur l'indemnisation, la commission est très claire et demande d'indemniser financièrement, à hauteur du préjudice subi, individuellement, sans avoir recours à des montants forfaitaires. Et elle préconise également d'avoir recours au patrimoine des agresseurs et au patrimoine de l'Église. Pour l'instant, les outils sont en place. Il y a un fonds de dotation qui a été lancé récemment, mi-septembre, décidé au mois de mars par les évêques de France. Ce fonds de dotation, pour l'instant, il fait appel aux dons des fidèles.
Oui, mais dont j'ai cru comprendre que la commission trouvait que les dons des fidèles n'étaient pas la solution la plus appropriée.
Absolument.
Pour abonder le fonds.
Elle écrit même très clairement que c'est une solution inappropriée, selon elle. Pour l'instant, les solutions pour abonder ce fonds sont encore à trouver, Monseigneur.
Absolument, et cette recommandation me trouble, parce que depuis 1905, l'Église ne vit que de dons des fidèles. Donc son patrimoine lui-même est constitué en grande partie des dons des fidèles, d'une part. Deuxièmement, il y a cette lettre au peuple de Dieu du pape qui nous demande à ce que ça soit tout le peuple de Dieu qui entre dans cette démarche. Et on sait ce que ça peut vouloir dire de toucher à son porte-monnaie. Je veux dire, je me sens concerné, mais je ne touche pas mon porte-monnaie. On est plus ou moins concerné. Donc là, pour moi, il y a une vraie question. Je dois essayer de comprendre pourquoi il est dit cela, parce que je toucher au patrimoine, c'est toucher à ce que les fidèles ont donné. Donc je sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire
exactement.
Vendre des biens, ça veut dire des choses.
Alors voilà,
il y en a pas beaucoup.
C'est-à-dire, je sais pas s'il y en a beaucoup, quoi. Hein, c'est-à-dire, moi, je en tous les cas, j'habite
même
dans
Christine un. Christine Pedotti dit, il y en a pas beaucoup.
Non, c'est une situation particulière de l'Église de France. L'Église de France, je le dis, hein, je ne suis pas toujours bienveillante à l'égard de l'Église de France. On ne peut pas m'accuser de la défendre systématiquement dans son caractère institutionnel, du moins.
Christine. Monseigneur Lebrun, approuve.
Du moins, mais je peux dire non. L'Église de France n'est pas riche. Et même si les religieux et les religieuses sacrifient quelques très beaux jardins du 7e arrondissement, ça va pas faire des milliers et des cents malgré tout. Donc ça, c'est quelque chose. Mais, je peux dire mais, il y a une chose que l'Église catholique sait faire, qui est le cœur de son métier, c'est de célébrer quelque chose, de savoir faire des actes symboliques. Et moi, j'attends vraiment des actes symboliques très très forts. Dire qu'on a honte, c'est une chose. Je veux dire, les évêques, qui pour certains sont des amis, je veux dire, c'est pas tous, je ne suis pas dans une hostilité.
Nous sommes des amis,
je leur dis, nous sommes amis de très longue date. On s'est connus il y a très longtemps, Lebrun et moi. Hein, on a fait le job dans les aumôneries de Paris, ensemble, voilà. Il y a 30 ans.
Et moi de Saint-Denis.
Et je leur dis, mais voilà, vous avez des signes de pouvoir, des signes de votre autorité. Vous avez une mitre, vous avez une crosse, vous êtes debout. Je vous demande, mais célébrez, mettez-vous à genoux. Pour tous, symboliquement, en tête de ce peuple, je veux dire, posez votre mitre, posez votre crosse, faites quelque chose. Il y a des églises, il y a des lieux, il y a des célébrations qu'il faut savoir faire. Pour que ce soit quelque chose de marquant, un évêque a mis une plaque dans son église en disant qu'il y avait ici des grandes victimes, hein, sur le séminaire de Chavannes-en-Palier, Monseigneur Jacolin. Donc il y a là quelque chose de fort à faire.
Est-ce qu'il y a encore des réticences dans certains diocèses ?
Oh certainement. Et puis, moi j'en appelle, j'entends avec plaisir Dominique Lebrun le dire, moi j'en appelle au ce qu'on appelle le peuple de Dieu dans le régime catholique, c'est-à-dire les catholiques, faut qu'on se mette au boulot, faut qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse des choses.
Le temps est déjà terminé, Dominique Lebrun, mais j'aimerais quand même, juste en quelques mots, que vous nous disiez, effectivement, alors oui, il y aura des pardons, il y aura le pardon à la messe probablement dimanche, là, comme ça déjà, quel cas d'ailleurs dimanche dernier. Quoi d'autre, en fait ? Juste pour dire, on a entendu tout ça, on n'a rien raté.
Je peux vous dire que nous en parlons entre nous. Je crois qu'effectivement, il faut que ce geste soit symbolique, mais il faut qu'il soit vrai. Hein. Et ce que je vous disais, enfin le trouble que j'ai commencé en disant, le trouble profond qu'il y a sur ma propre vocation, sur ce que j'ai fait jusqu'à présent, il faut que nous le partagions tous pour faire quelque chose de vrai, et pas seulement les évêques, sans doute.
Ce sera le mot de la fin, on en parlera un autre moment, il y aura d'autres téléphones sonnent autour de ces sujets-là. Merci beaucoup, merci à tous.